Radio Okapi. Okapi.
Okapi service avec Marcel Ngombombala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Comment assurer un bon recrutement du personnel dans une entreprise? Eh bien, on en parle avec notre invité qui est dans ce studio, David Pata, expert en recrutement et directeur général du RACIOA. David Pata, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons également un deuxième invité certainement au téléphone, Yves Daniel Gavan. Il est expert en ressources humaines. Après le flash d'informations des 11h heure de Kinshasa, un autre sujet qui va être abordé au cours de ce magazine, il s'agit de résolutions prises par les scientifiques à Yangabi dans le cadre de travaux préparatoires de la COP 27. Professeur Albert Kabassé, le directeur de l'école doctorale de télédétection du climat de l'Université pédagogique nationale, sera notre invité. Il aura également un deuxième invité, Guy Kanjemba, coordonnateur du groupe de travail climat Red Plus. Voilà les menus pour le magazine Okapi Service de ce jour. Mimi Kindo est à la technique, Tati Mapoku pour réaliser cordon de ce magazine, présenté par Marcel Ngombombala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À toutes et à tous, excellente condition d'écoute.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Comment assurer un bon recrutement du personnel dans une entreprise pour être compétitif sur le marché? Une entreprise a besoin d'un personnel qualifié et compétent, mais bien souvent le problème se pose au niveau du recrutement et de la sélection du personnel. Et pour faire un bon recrutement, certains chefs d'entreprise recourent aux agences de placement qui se sont développées à Kinshasa et autres villes de la RDC. Mais par ailleurs, beaucoup de personnes, notamment les jeunes diplômés en quête d'emploi, ont souvent du mal à trouver de l'emploi à cause de certains critères définis. On parle de tout cela avec notre invité qui est déjà dans ce studio, David Pata, expert en recrutement et directeur général de RACIOA. Si vous êtes intéressé par ces sujets, vous avez des questions à poser, vous avez des préoccupations, composez les 081 890 63 94 ou les 09 716 63 94. Alors, David Pata, vous êtes expert en recrutement, vous êtes aussi directeur général du RACIOA. On aura le temps peut-être de découvrir c'est quoi RACIOA. Alors, est-ce qu'il y a, on peut faire un bon ou un mauvais recrutement?
Oui, on peut réaliser un bon ou un mauvais recrutement. Cela dépend des paramètres. Parce que vous savez que le recrutement, c'est tout un domaine consacré de la psychométrie et en même temps d'une psychologie appliquée dans le monde du travail. Et donc, lorsque les paramètres ne sont pas bien respectés, c'est-à-dire, vous avez des experts qui ne sont pas du domaine, qui ne sont pas des psychologues, qui ne sont pas rodés dans l'art des recrutements, et que vous avez aussi un marché d'emploi qui n'offre pas suffisamment de profils calibrés, si et que les tests n'ont pas été adaptés par rapport au profil, et qu'il y a également des pesanteurs socio-culturels qui pèsent sur le processus, vous allez voir que les paramètres donc déjà vont compromettre même la qualité même du travail.
Alors vous êtes un entrepreneur ou bien vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou bien vous voulez ouvrir une entreprise. Et vous posez des questions par rapport au recrutement, comment s'y prendre, comment faire un bon recrutement de manière à ce qu'on puisse être compétitif sur le marché, à comment on doit s'y prendre.
La première des choses, c'est que on n'est pas expert dans tous les domaines. Oui. C'est-à-dire que si vous allez entreprendre ou si vous avez un core business, c'est-à-dire vous avez une activité principale qui fait fonctionner l'entreprise, vous n'êtes pas forcément expert en recrutement. Donc, la première des solutions, c'est de pouvoir confier, externaliser ces services-là à une agence spécialisée. Et donc, aussi là, il faut faire un choix judicieux et responsable d'une agence qui est calibrée. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir toutes les agences, même les agences d'intérim, se sont effectivement pointées comme des agences de recrutement. Or, ce n'est pas vrai. Et donc, parce que le recrutement, c'est tout un domaine, comme j'ai dit. Donc, un domaine qui demande beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances techniques. Notamment, il faut avoir des connaissances en psychotechnique. Il faut bien maîtriser les processus de construction des tests et également des mesurages qui est consacré à la psychométrie. Mais il faut aussi connaître l'homme dans toutes ses composantes, du point de vue compétences, du point de vue personnalité, du point de vue des aptitudes, etc. Il faut maîtriser tous ces paramètres. Donc, une agence qui est calibrée, qui a du personnel spécialisé dans les domaines, pourrait être un bon partenaire pour pouvoir vous aider, n'est-ce pas, à trouver des personnes, des perles rares.
Mais c'est bien de recourir aux agences de placement, mais bien souvent, il y a certains critères prédéfinis qui, en tout cas, limitent ou réduisent les chances, notamment de personnes, surtout les jeunes diplômés. Et bien souvent, ces personnes se plaignent de ces critères prédéfinis qui ne leur permettent pas d'avoir la chance, en tout cas, d'être embauchés.
Oui, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que le recrutement, c'est un processus de matching entre le job, les exigences du poste et le profil recherché, c'est-à-dire que dont détiennent les candidats. Donc, c'est cet exercice qui consiste à créer un lien, si pas de parfait accord, mais un lien presque proche entre ce qu'on cherche et ce que la personne dont dispose la personne comme atout, comme compétence, etc. Donc, il se pose, en fait, en réalité, c'est que le recrutement, il est un processus neutre. Il n'y a pas de sentiment dans les recrutements parce qu'on recrute sur base, un, de ce que la personne dispose comme qualification. De deux, ce que la personne dispose comme savoir. Quand je parle de savoir, je vois les trois angles. Donc, je parle de savoir. Savoir, c'est-à-dire des connaissances. Ça peut être technique ou théorique. Et vous avez les savoir-faire. C'est ce qu'on appelle généralement les compétences. Et vous avez les savoirs être qui inclut les aptitudes, la personnalité, etc. Donc là, ce sont effectivement quatre grandes composantes, c'est-à-dire les trois types de savoir plus la qualification, mais également il y a des exigences liées au type d'environnement, au poste, etc., qui, lorsqu'on le met ensemble, peut rendre difficile, n'est-ce pas, l'accessibilité, n'est-ce pas, du jeune dans les marchés de l'emploi. Parce que ces jeunes vient fraîchement de l'université ou n'ont jamais travaillé, donc ils ne disposent pas certains atouts qui ne sont même pas des atouts, mais certaines exigences qui sont complexes. Mais il y a quand même des solutions palliatives qu'il faudrait effectivement soulever.
Vous avez parlé de ces éléments clés, connaissances, compétences et aptitudes. Il faut absolument réunir tous ces éléments pour espérer avoir de l'emploi.
Oui, évidemment, parce que le travail, c'est quoi? L'emploi, c'est quoi? C'est un ensemble de tâches qu'une personne est censée réaliser dans un contexte précis, c'est-à-dire un contexte du travail. Alors, mais cet ensemble de tâches, pour que la personne soit en mesure de les réaliser, il doit disposer, comme j'ai dit, de facteurs déterminants. Ce sont ces facteurs déterminants qu'on appellerait compétences, qu'on appellerait qualifications, qu'on appellerait aptitudes, personnalité, etc., savoir, qui vont lui permettre de réaliser cet ensemble. Exemple, pour un emploi de secrétaire, des directions, il doit, entre autres, par exemple, rédiger des lettres. Et pour rédiger des lettres, il faut disposer des compétences, notamment, par exemple, dans le maniement de l'ordinateur, la connaissance de Word, la connaissance de l'interface de Microsoft. Vous voyez? Donc, ce sont des éléments qui sont, en même temps, la personne doit avoir une certaine personnalité, doit avoir de la discrétion. Donc, lorsque vous réunissez tous ces éléments-là, ils vous permettent de pouvoir, n'est-ce pas, être à la hauteur des tâches qu'on demande, qu'on attend de vous. Donc c'est ça en fait le problème.
Mais alors là, vous avez dit une agence de placement, en tout cas, doit travailler de façon neutre. En tout cas, vous confirmez que ça se passe comme ça, parce que bien souvent ici, on sait qu'il y a des recommandations. On peut bien c'est référer, recourir à une agence de placement, mais on peut aussi recommander des personnes.
Bon, les agences de placement, à ma connaissance, à mon expérience depuis d'une dizaine d'années dans le domaine des recrutements, lorsque le processus est externalisé, il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de recommandations.
Pourquoi? Parce que externalisé, c'est-à-dire?
C'est-à-dire confié à une agence spécialisée extérieure, comme les agences de recrutement. Et donc, lorsque on externalise, il y a plus de chances. Pourquoi? Parce que, un, l'agence est payée par rapport à la qualité du service. Ça signifie que si l'agence ou les experts de l'agence commence, n'est-ce pas, à se laisser emporter par des pressions extérieures, ils vont fournir un travail de mauvaise qualité, ce qui fait qu'ils vont perdre la crédibilité auprès de l'entreprise cliente. Ça, c'est déjà une exigence. Un autre problème, c'est que déjà l'entreprise a, comme je l'ai dit tantôt, problème de crédibilité à préserver. En même temps, l'entreprise doit assurer une crédibilité auprès du grand public. Il faut pas que les gens oublient que aujourd'hui, le recrutement n'est pas simplement un aspect pour trouver le meilleur profil, de les faire engager, mais également ça devient une action, une activité de marketing. Quand une agence publie des offres, en réalité, les offres sont lues par un grand public et un public restreint intéressé par les offres. Ça augmente, n'est-ce pas, l'image de cette agence auprès du grand public et également pour même l'entreprise demanderesse. Et donc, pour encore garantir la crédibilité et l'objectivité, les agences ont pris l'option de rendre anonyme. Par exemple, on ne cite pas l'entreprise qui fait directement les recrutements. Ceci encore fait que les gens, n'est-ce pas, vont se dire, bon, ce sont des recrutements ordinaires, ils n'ont pas besoin d'aller recourir à X, Y, Z.
David Pata, expert en recrutement et directeur général de RACIO, on revient à vous. On va rejoindre notre invité, Yves Daniel Gavane. Voilà, c'est bien dit, qui est expert en ressources humaines. Yves Daniel Gavane, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bah, merci de nous rejoindre dans ce numéro du magazine Okapi Service où nous parlons de comment assurer un bon recrutement du personnel dans une entreprise. Il y a toi beaucoup de chef d'entreprise qui ont recours aux agences de placement pour espérer faire un bon recrutement. Et vous, en tant qu'expert en ressources humaines, qu'est-ce que vous en pensez?
Merci encore une fois pour cette invitation. Marcel, il faut dire déjà que avant de parler recrutement, il y a une grande question par un personnel. Et pour avoir un personnel, ça ne tombe pas du ciel. C'est un processus de longue haleine qui nécessite une bonne préparation de la personne sur tout le plan pour qu'il soit à même d'être appelé personnel et ensuite qu'il soit recruté. Donc je pense que par rapport à notre sujet, il faut l'aborder de deux manières. D'abord, en ce qui concerne le personnel, comment être un personnel de...
Et David, votre ligne, c'est gâte. Si vous voulez vous déplacer un tout petit peu, parce que là, on ne sait plus vous suivre. Oui. Essayez de vous déplacer, oui. Allez-y, Yves Daniel, allez-y.
Je disais que nous souffrons par défaut on n'a pas un très bon capital humain au niveau pays. Et dans tous les rapports, d'ailleurs, on ne cesse de le mentionner, que nous souffrons d'un problème de capital humain et d'un personnel de qualité, malgré que nous avons énormément de jeunes avec des diplômes qui sont de nos universités, mais des diplômes trop théoriques et sans contenu. Et ça pose déjà problème. Et dans ces cas-là, ça va déranger des entreprises qui ont envie d'avoir un personnel de qualité pour pouvoir faire des chiffres ou compétitifs, parce qu'ils vont recourir dans un marché où ils trouvent pratiquement pas de la qualité, donc ils sont obligés de faire avec permettez-moi l'expression, les médiocres. Donc il faut travailler d'abord sur la constitution, la préparation du personnel. En ce qui concerne le recrutement, effectivement, l'invité qui est au plateau, David, a raison. Au fait, c'est un processus très sérieux où il faut extraire déjà la complaisance, parce que chez nous, on a pris des mauvaises habitudes de monnayer le recrutement. Le recrutement devient comme un jeu d'enfant, c'est-à-dire quand on dit recrutement, c'est appeler cousin, appeler cousine, appeler frère, appeler sœur, appeler membre des partis politiques, appeler membre de ceci et donner des emplois. Et ça pose énormément de problèmes in fine aux entreprises, parce que les gens qui aujourd'hui se prétendent être des recruteurs, la plupart sont des faux. Ils les font par défaut ou tout simplement par positionnement organisationnel, parce qu'ils se retrouvent un jour directeur ou chef de service. Ils se transforment en un recruteur et c'est très, très, très dangereux. Je pense que recourir, à mon humble avis, à les structures spécialisées de placement serait la meilleure des choses, parce que ces structures vont travailler en âme et conscience, parce que c'est ça leur métier, et ils les feront de manière très professionnelle pour pouvoir garantir davantage la fluidité des clients et de pouvoir être compétitifs à l'avenir. On dira qu'ils ont, ils sont capables de nous amener du bon personnel. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire d'entrée de jeu.
Voilà, mais il a insisté, notre invité, le professeur David Patat, sur les connaissances, les compétences, les aptitudes. Et vous dites que actuellement, là, en tout cas, la plupart des jeunes qui sont diplômés dans nos universités, c'est vraiment des diplômes théoriques. Et là c'est compliqué alors pour ces jeunes d'espérer à toi se faire embaucher.
Oui, tu sais, Marcel, depuis des années, je ne cesse de dire, à chaque fois que vous me donnez l'occasion de passer à l'antenne, il y a un dialogue de sourds entre nos universités et les entreprises. Les universités qui sont censées former et la jeunesse ou ses personnels d'une manière tantôt d'une autre, et les entreprises qui doivent en principe consommer cette production. Il y a un dialogue de sourds dans ce sens que les entreprises communiquent de moins en moins sur leurs référentiels de compétences. Parce qu'une entreprise n'engage
pas. Et apparemment, la ligne se gâte encore avec Yves Daniel Gavan. On va le retrouver tout à l'heure. Il est temps pour nous d'ouvrir le standard avec Charles qui nous appelle de Lubumbashi et Héritier qui est à Bouna. Bienvenue, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix. C'est votre émission de la vie au quotidien, au Capi Service. On parle de comment assurer un bon recrutement du personnel dans une entreprise. Si vous voulez intervenir, composez les 081 890 63 94 ou les 09 716 63 94.
Parce que nous sommes tous gardiens et protecteurs de la nature, la République démocratique du Congo, en partenariat avec la République arabe d'Égypte, organise les travaux préparatoires de la COP27 à Kinshasa du 3 au 5 octobre 2022 au Palais du Peuple. Les ministres du climat de plus de 65 pays vont débattre pendant 3 jours des enjeux et questions climatiques et débattre l'agenda de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ensemble, unissons le monde contre le changement climatique.
Vous nous appelez de Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur comment assurer un bon recrutement du personnel dans une entreprise?
Oui, bonjour Marcel. Bonjour aussi aux experts. Charles Kishimbasalangeta de Lubumbashi. Monsieur Marcel, vous allez m'excuser. Le monde est devenu maintenant un village planétaire. Si je me mets un peu à comparer les systèmes canadiens avec le système congolais, vraiment, j'ai toujours pleuré. Qu'est-ce que je pleure souvent? Là, au Canada, on a besoin de récupérer d'abord l'homme. Il n'y a pas devant lui autant d'exigences, autant de caprices pour être recruté. On récupère l'homme par rapport à ce qu'il est et non par rapport à ce qu'il a. Parce qu'ils disent qu'on n'est pas de mettre au monde comme ça et directement qu'il y a toutes les aptitudes qu'il faut. C'est en travaillant que vous allez accueillir toutes ces connaissances-là, toutes ces expériences-là. Et si nous comparons le Canada avec la RDC. En tout cas, le Canada est même avancé, développé que nous. Mais ici chez nous, là où il y a autant de caprices. Voilà, nous tournons toujours à Rome, M. Marcel. Et je vous avoue, dans l'enseignement, par exemple, j'ai constaté depuis un temps, parce que j'ai toujours eu aussi cette opportunité-là de participer. Donc, je suis parmi les agents recruteurs. Vous verrez, comme souvent ces 3 jours de test, vous verrez, peut-être la première journée ou le premier jour-là, c'était quelqu'un d'autre qui est venu passer son examen-là théorique, arrivé le dernier jour la pratique, c'est purement une autre face que vous n'avez jamais vue. Comme ici, chez nous, le système n'est pas encore digitalisé jusque-là, on souffre le chaud et le froid pour ne pas questionner autant de questions. Et vous verrez même, dans sa demande, c'est une autre écriture. Mais quand vous allez récupérer la personne, l'écriture devient tout autre. Alors nous comprenons qu'il y a aussi les frappeurs dans ce sens-là. Est-ce que, du fait qu'on est là pour améliorer, on est là pour copier les bons exemples, on ne peut pas quand même copier les systèmes canadiens au lieu de perdre des temps inutilement dans notre système ici qui ne produit aucun fruit. Alors, c'est ce que j'ai voulu un peu demander aux différents invités. Merci beaucoup, M. Marcel.
Merci, Charles Devap de Lubumbashi. Héritier, vous êtes à Bounia. Bonjour, Héritier. Héritier, vous nous suivez, hein? Vous êtes à Bounia. Héritier n'est plus en ligne, ou apparemment il est pas attentif, il est occupé à autre chose. On verra si on peut le retrouver. Alors on revient à notre on me fait signe qu'Héritier, Héritier, c'est bon, vous êtes en ligne.
Je suis là, Monsieur Marcel. Bonjour, Monsieur Marcel.
Alors on vous écoute, Héritier. Votre question ou votre préoccupation sur ce sujet, comment assurer bon recrutement du personnel dans une entreprise?
Bon. Monsieur Marcel, premièrement, je voudrais, c'est une suggestion de ma part, je voudrais que dans le ministère de l'enseignement, qu'on puisse redynamiser les enfants. Parce que lorsque vous dites que, lorsque on veut recruter un personnel et qu'on met devant lui de fortes conditions, que vous devez avoir travaillé pendant 5 ans dans une entreprise telle ou telle, vous devez acquérir une connaissance comme ça et comme ça. Bon, est-ce que le problème de ne pas avoir une connaissance, par exemple, dans le ministère de l'économie, est-ce que ce n'est pas un problème de notre programme dans l'enseignement? Parce que vous voulez avoir un économiste. Est-ce que, par exemple, moi, je suis un pédagogue. Je fais la pédagogie. Et que je voudrais avoir un boulot. Vous ne voyez pas que je suis bloqué devant des conditions que l'entreprise, les conditions devant que je devais remplir avant qu'il soit recruté. Voilà un problème auquel beaucoup de personnes font face. La première question est de savoir comment est-ce qu'on peut avoir un contrat. Est-ce qu'un contrat social, un contrat dans le travail, comment on peut avoir un contrat social dans une entreprise qu'on a été recruté?
Voilà, merci Héritier d'avoir appelé depuis Bounia. David Patak au mariage, c'est vous.
Oui, et donc le problème de parallélisme, d'établir le parallélisme entre les systèmes, n'est-ce pas, en termes d'emploi, n'est pas mauvais. Quand on regarde effectivement au Canada, mais également quand vous regardez ailleurs, aux États-Unis, en France, etc., vous allez sentir que ces pays développés disposent d'une politique nationale en matière d'emploi. La RDC n'en a pas, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, vous leur demandez s'ils pouvaient mettre à notre disposition un référentiel qui définit, n'est-ce pas, les contextes d'emploi et la politique même de l'emploi des différents gouvernements. Il n'y en a pas. Ça, c'est un problème. De deux, c'est que c'est vrai que nous avons un système qui est encore théorique, système d'enseignement. Nous venons d'entrer avec les LMD, qui est généralisé partout ailleurs. Mais apparemment, quand Yves Daniel parle de langage des sourds, effectivement, a raison. C'est-à-dire que, apparemment, nous n'avons pas compris, n'est-ce pas, comment ces systèmes devraient fonctionner. Allez-y dans les différentes universités où on est en train d'implémenter ces systèmes de LMD, vous allez regretter, vous allez même rigoler. Parce que même les systèmes de LMD imposent une autre pédagogie, une autre, n'est-ce pas, approche, une autre approche d'enseignement. Donc ce n'est plus un enseignement du type littéral ou théorique, mais il faut effectivement que les enseignants s'inscrivent dans une approche de l'école primaire. C'est-à-dire, vous voyez, dans une école primaire, un enfant qui ne sait ni lire ni écrire, quand il sort, il a toutes les compétences, et pour écrire, et pour lire, et pour chanter, et pour se comporter. Donc, c'est en fait ça, LMD. LMD, n'est-ce pas, c'est rapprocher au système d'enseignement de l'école primaire. Malheureusement, des enseignants ne sont pas formés sur le plan pédagogique pour pouvoir former à cette hauteur. Et nous avons aussi un problème de matériel, de laboratoires, mais également nous avons un problème d'entreprise où le jeune gens devrait avoir l'accès pour faire les stages. Et même ces entreprises-là, la plupart, un bon nombre, n'est-ce pas, d'entreprises, ce sont des grandes institutions de l'État, n'est-ce pas, des grandes entreprises, des offices, etc., mais qui aussi posent un problème de compétences. Donc déjà, ces entreprises posent un problème de compétences, un problème de carence en termes de compétences. Si vous envoyez ces jeunes gens pour aller là-bas, ils y vont pour sortir même bredouille. Ça aussi, un problème. Mais également, lorsqu'on parle des systèmes, n'est-ce pas, pour les jeunes gens. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez faire la lecture diagonale du marché d'emploi congolais, il se dégage ce qui suit. Les emplois que nous avons, les emplois les plus dynamiques et le mieux offrant, sont le paix d'emploi des entreprises privées. Un grand nombre d'emplois, c'est pour des grandes institutions et il n'y a pas assez de création en termes d'entreprises. Si vous regardez le pays tellement grand, nous n'avons pas assez d'entreprises. Quand vous faites le parallélisme et la comparaison entre le nombre de la population et les emplois qui sont disponibles, vous allez voir qu'il y a une dissymétrie incalculable. Donc, nous sommes dans un contexte d'un marché d'emploi asymétrique. Il n'y a pas assez d'emplois.
La population en quête d'un emploi, c'est cette
population. La population en quête d'un emploi, tout à fait. Effectivement. Oui. Parce que quand vous regardez chaque année les universités congolaises, avec tout, quand je parle des universités, avec les instituts supérieurs, quand vous le mettez ensemble, ils vous produisent un grand nombre, n'est-ce pas, de diplômés qui ne vont pas forcément trouver de l'emploi. C'est ça, en fait, le problème. Donc maintenant, ce qui devait se passer, c'est quoi? C'est que le gouvernement congolais devrait créer, assainir le millier de telles sortes que les gens puissent avoir la facilité de créer de plus en plus d'emplois. Ce sont ces emplois qui vont permettre à ce qu'il y ait un grand nombre de recrutements de jeunes gens. Mais également, la politique nationale en termes d'emploi voudrait à ce qu'il y ait. Il y a une politique dans le sens des décisions, dans le sens que les entreprises devraient ouvrir des portes aux jeunes diplômés en termes de quotas et que ça devrait être surveillé à la loupe par les organes de tutelle pour voir combien de jeunes gens ont pu bénéficier des stages professionnels calibrés, oui, et etc. Comme ça, ça allait permettre, n'est-ce pas, aux jeunes gens d'acquérir des compétences et qu'ils soient, n'est-ce pas, prêt lorsqu'il y a des emplois qui correspondraient, n'est-ce pas, à leur profil.
Mais vous avez suivi, Charles et Héritier insistent, d'après eux, il y a beaucoup d'exigences, il y a trop de rigueur.
Bon, disons qu'il n'y a pas trop de rigueur, mais simplement, comme j'ai dit, il n'y a pas assez d'emplois. Parce que le peu d'emplois qu'il y a sont des emplois qui demandent des qualifications. Exemple, quand on recrute un directeur, quand on recrute un chargé, ce sont des postes qui demandent suffisamment beaucoup de compétences. Et les compétences se traduisent en termes d'années d'expérience. Parce que c'est une compétence, c'est quoi? Une compétence, c'est une somme, n'est-ce pas, d'atouts, d'habiletés qu'on a pu développer, des capacités qu'on a pu développer en exerçant un travail. Ce qui fait qu'une compétence est différente d'un savoir. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas se dire être compétent lorsqu'on n'a pas encore travaillé. Mais on peut disposer des aptitudes. Les aptitudes sont des talents innés que les gens disposent avant même qu'ils travaillent. Exemple, la fluidité verbale, la capacité numérique, la facilité, n'est-ce pas, de faire des comptages, etc. Et ces aptitudes peuvent être développées à la suite d'une formation académique, classique, etc. Mais également dans un métier, dans l'exercice d'un métier. Donc vous comprenez, c'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, le peu d'emplois qu'il y a dans les contextes congolais, ce sont des emplois qui existent, qui sont des postes supérieurs, donc il est difficile effectivement qu'on puisse, n'est-ce pas, permettre aux jeunes gens d'entrer dans le marché de l'emploi. L'unique possibilité serait quoi? Qu'il y ait un grand nombre d'emplois créés. Ce qui ferait qu'on aura également suffisamment de postes vacants et les jeunes gens vont trouver de l'emploi. Mais également, il faut qu'il y ait un système de retraites réguliers. Parce que s'il y a des retraites régulières et qu'il y a des promotions également régulières dans toutes les entreprises, surtout les entreprises publiques, vous allez voir que systématiquement, lorsqu'il y a des promotions, il y a des retraites, il y aura des postes d'en bas, n'est-ce pas? Des postes, moi je les appelle des postes d'entrée, qui vont rester vides. Ce sont ces postes qui vont nécessiter effectivement des recrutements en masse.
Bon, notre deuxième invité, Yves Daniel Langavan, qu'on avait perdu un moment, est de nouveau en ligne. On va le retrouver. Mais avant de le retrouver, nous allons nous tourner vers le standard où il y a Glody qui nous appelle de Kinshasa et puis Safari qui nous appelle depuis Igabaria. Glody, vous nous appelez depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes. Bonjour à tous les auditeurs de la radio CAC.
On vous écoute, Glody.
Oui, merci. Et moi, je pense que l'invité a totalement raison de ce qu'il est en train de dire, mais entre deux jeux, je voulais juste peut-être passer aux questions. Monsieur l'invité, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les jeunes qui terminent les universités aujourd'hui puissent avoir la facilité d'être embauchés quelque part afin de récupérer quand même l'argent que les parents ont investi au courant de leurs études universitaires? Ça, c'est d'abord la première question. Et la deuxième question, comment faire pour être en contact avec les centres que vous êtes le directeur, que vous encadrez les jeunes par rapport à l'employabilité? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive plus à comprendre dans le sens que moi qui vous parle, là, je suis allé faire la thèse quelque part, je fais les lettres, mais dis non, tu dois faire votre CV n'est pas en norme internationale. Il faut faire les CV, c'est le norme internationale. Bon, j'étais tiqué, j'étais touché. Jusqu'à présent, j'ai eu le temps de réfléchir, je n'arrive pas à trouver des réponses. Je pense que vous pouvez m'aider. Est-ce que on peut faire les CV dans une manière internationale ou bien nationale? Je ne sais pas. Comment faire un CV, par exemple? Si vous pouvez bien nous expliciter, je pense que ça peut nous aider. C'est ça, au moins, c'est les trois préoccupations que j'ai voulu partager avec vous.
Merci. Je vous remercie. Merci, Glody, d'avoir appelé des Kinshasa. Safari, vous êtes à Inga Barrière, à Nitori. Bonjour, Safari.
Oui, bonjour. Bonjour aussi à monsieur les invités qui sont là-bas. À rapport à l'émission, comme vous avez abordé les recrutements, les emplois, moi je pense que certes il y a des emplois parfois, mais nous sommes devant des emplois surtout auxquels il faut avoir l'accès, donc moyennant la corruption. C'est ça le problème qui est avec nous. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, vous les invités qui êtes là, je pense que vous êtes des coachs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire lorsque un employeur, il veut vous engager, mais il vous demande par exemple $100 pour que vous ayez l'accès à son emploi. Donc, c'est ça ce qui nous préoccupe. Sinon, je vous demande une réponse par rapport à ça.
Merci Safari d'avoir appelé depuis Iga Barrière. Yves Ngavan, Daniel. Yves Daniel Ngavan, vous êtes de nouveau en ligne. Comment réagissez-vous? Yves Daniel Ngavan, vous êtes en ligne?
Allô Marcel.
Non, c'est bon, vous pouvez aller, on sait vous suivre maintenant, allez-y.
Ah d'accord, donc j'ai suivi religieusement le professeur Pata et aussi les auditeurs. Il faut dire d'entrée de jeu, il a raison sur l'aspect qu'il a développé en fait.
Décidément, on continue à avoir de problèmes avec la ligne.
Il faut aller encore plus loin.
Oui. Allez-y, Ngavan, vous avez des problèmes avec votre ligne, mais bon, allez-y toujours, peut-être que ça ira mieux. On vous écoute. Allez, vous avez dit, vous avez suivi le professeur David Pata, il a raison sur quel aspect?
Oui, tout ce qu'il a développé, en fait, suite à ce que j'avais dit tout à l'heure, du dialogue de sourds entre les universités et les sociétés, en ce qui concerne la qualité, au fait, de personnel que nous devons avoir au niveau pays. Mais également, la politique pays, en termes d'emploi, qui traîne toujours. Le pays ne dispose pas encore d'un référentiel de compétences. et des emplois à créer, c'est ce qui pose énormément de problèmes pour la préparation d'un personnel de qualité. Mais il faudra aussi dire que nos jeunes, effectivement, heureusement qu'il y a un jeune qui a posé un problème en ce qui concerne les profils. Nos jeunes ont du mal à avoir ou à développer des bons profils et ils se cachent derrière la question de l'expérience professionnelle. Il faut dire qu'il y a des postes qui nécessitent pas d'expérience, mais d'autres, par contre, il faut avoir de l'expérience. Et pour cela, pour acquérir de l'expérience, il y a plusieurs mécanismes, notamment en étudiant, en faisant l'université, il y a des formations, il y a les coachings, et être dans cet univers professionnel, même à travers l'université avec l'État aussi, qui doit, avec des soutiens spécialisés pour accompagner cette jeunesse. La question des CV, par exemple, est revenue. Je me rappelle, il y a 7 ans, j'ai produit un ouvrage qui s'appelle, qui est toujours en actualité, Passeport à l'emploi, et on a fait beaucoup d'émissions là-dessus. Le 9e chapitre de cet ouvrage traite la question des CV, comment rédiger un bon CV. Mais ce qui fait que beaucoup de jeunes aussi, ils ne connaissent pas où trouver des informations, ou encore ils ne veulent pas avoir des informations, parce qu'il y a beaucoup de documentation aujourd'hui autour de ça, même en ligne. Quand vous allez sur Google, vous pouvez faire des recherches pour avoir obtenir les techniques de rédaction d'un bon CV. Mais je voudrais aussi souligner, si on veut réussir, avoir un bon personnel pour réussir son recrutement, il faudra aussi non seulement mettre du sérieux dans ces processus en utilisant les personnes habilitées et qui maîtrisent la chose, mais aussi il faut assurer un bon traitement des gens qui sont sélectionnés. Parce qu'il y a un sérieux problème aujourd'hui, c'est vrai, on veut un personnel de qualité, mais le traitement n'est pas assez bon. Hein, quand vous regardez, par exemple, nos frères et sœurs qui sont recrutés à la sauvette chez les expatriés qui sont ici, indiens, libanais et consorts, mais il faut voir les traitements qu'on inflige à ces
gens. Mais quand vous parlez du traitement, c'est le salaire, c'est ça, bien ça, vous voulez parler du salaire.
Quand vous parlez effectivement, oui, d'accord. Je parle de tout, il n'y a pas que le salaire, oui. Et l'environnement dans lequel ils travaillent, y compris, oui, le salaire.
David, là, plutôt, voilà, Yves Daniel, là, on n'a pas suivi, hein, que lorsque je vous ai posé la question, quand on parlait du traitement, si ça y est, c'est moi du salaire, vous avez dit toutes les conditions dans lesquelles ces gens travaillent, et puis à un moment, on vous a perdu, si vous voulez bien revenir sur ça.
De manière globalisante. Donc, il n'y a pas que le salaire, je parle de l'environnement socio-professionnel, c'est-à-dire l'environnement moral, l'environnement moral, physique, sanitaire, ok, et tout ce qui entoure l'environnement juridique. Il y a ces gens qui travaillent même sans signer de contrat. Hein, ils ne connaissent même pas les avantages et consorts. Donc, ils sont dans un environnement obscur et ils sont traités comme des esclaves à la merci de leurs maîtres qui peuvent décider sur tout à tout moment. Donc, je parle de toutes ces conditions-là réunies. C'est cet environnement qu'il faut assainir, y compris les salaires. Parce que vous ne pouvez pas vouloir chercher en personnel. Et à la fin, ces personnels n'est pas bien traité, n'est pas bien considéré, et il n'est pas mis dans les bonnes conditions pour pouvoir effectuer un travail. Il y a la protection. Quand, oui, ceux qui travaillent dans les industries, dans les usines, vous allez voir des gens qui travaillent à main nue, sans casque, sans masque, par exemple. Et nous le voyons ici à Kingabwa, dans les industries des expatriés, où nos frères sont exposés. Donc c'est tous ces éléments qu'il faut tenir compte, parce qu'il ne faudra pas recruter les gens pour les tuer. Il faut recruter des gens pour qu'ils produisent du travail, mais qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient à même de gagner leur vie et de faire des souvenirs à leur famille. Voilà.
Yves Daniel Gavan, on va rester toujours en ligne, on va revenir à vous. Alors, David Patel, il y avait cette question des Glody qui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes vraiment puissent avoir la chance d'être embauchés?
Oui, donc... Yves Daniel l'a tantôt dit, en ce qui concerne que faire pour que les jeunes puissent facilement trouver de l'emploi. Donc nous avons parlé d'un contexte global, politique nationale, mais également nous avons parlé des exigences pour certains postes hautement qualifiés, le plus souvent, qui sont le plus souvent ouverts. Et nous avons également parlé de réalité socio-professionnelle dans le contexte congolais, mais également le problème d'inadéquation entre la formation et les compétences dont les entreprises ont besoin. Mais à cela s'ajoute également un problème de préparation. La préparation suppose quoi? Les jeunes gens devraient être informés, n'est-ce pas, d'avoir une vie globale sur les réalités des marchés de l'emploi congolais, mais également avoir déjà un esprit, une idée sur leur profil et les correspondances de postes, et en principe dans lesquels devaient s'orienter. Et là, il se pose un problème d'orientation. J'ai rejoint en moitié Héritier quand il a parlé de quelqu'un qui a fait de la pédagogie, il cherche un emploi dans un autre domaine. C'est ça en fait le problème. Ça dit que quand vous allez dans une filière, vous devez savoir quelles sont les opportunités que vous offre la filière. Quand vous allez faire la pédagogie, mais il faut aller à l'enseignement. Pourquoi vous êtes allé faire la pédagogie et vous voulez être comptable? Donc il y a une adéquation même en termes de background, même en termes de background scolaire, etc. Donc il se pose un problème. Donc le jeune gens, lorsque vous effectuez un choix, il faut faire en sorte que le choix puisse correspondre à vos aspirations. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que si vous avez des difficultés, il faut aller dans les centres spécialisés. Il n'y en a pas beaucoup ici au pays. Parce que en principe, par exemple, à l'école primaire, à l'époque, on avait des conseillers en OSP, orientation scolaire et professionnelle, qui étaient là. Je ne sais pas si aujourd'hui les écoles continuent encore à les employer de manière utile. Mais je ne pense pas. Quand on regarde l'inadéquation qui s'offre de plus en plus par rapport aux choix et également aux réalités au niveau des universités, etc. Et donc, par exemple, vous pouvez aller pour avoir, par exemple, des accompagnements, des coachings, vous pouvez vous adresser au Rassioa, par exemple, qui pourrait effectivement vous accompagner dans le www.rassioa.com. Vous allez vous adresser et donc on peut vous accompagner dans ce sens-là. Pour le CV, je reviens ici pour dire qu'il n'existe pas un système standard international de CV. Chaque entreprise essaye de pouvoir, n'est-ce pas, et même les organismes essayent de pouvoir mettre sur pied un modèle. Pourquoi? Parce que simplement les modèles de CV sont conçus à la logique mathématique opérationnelle de chaque processus de recrutement. C'est ainsi, vous verrez par exemple que la plupart d'organismes internationaux disposent d'un modèle de CV. Par exemple, on parle des formulaires P3 ou P13, etc. Vous allez par exemple à l'Union européenne, à les différentes structures qui fonctionnent, qui travaillent avec l'Union européenne, qui vont vous exiger un modèle de CV donné. Vous avez la Banque mondiale qui vous donne aussi un formulaire, etc., etc. Et vous avez aussi des entreprises qui ont quand même pu, en fonction de leur logique mathématiques, des processus de recrutement qui vous imposent aussi un modèle de CV. L'idéal serait quoi? L'idéal serait d'être attentif dans la lecture de l'offre ou de ce qu'on appelle offre d'emploi. Il faut lire parce que là-dedans, si l'entreprise n'est pas très rigoureuse, l'entreprise, il vous laisse, n'est-ce pas, faire votre modèle. N'insiste pas beaucoup ou ne le dit même pas. Mais si vous avez une entreprise rigoureuse qui fonctionne selon la logique mathématique des processus de recrutement, l'entreprise, il vous impose déjà un modèle, par exemple, de CV à utiliser, par exemple, ou des informations à insérer, etc. Et donc, comme a dit tantôt aussi, donc on peut vous donner des lignes maîtresses, des grandes informations qui devraient être incorporées dans des CV, mais il faut toujours avoir dans l'esprit que chaque entreprise ou chaque organisme souhaiterait avoir, par exemple, des informations réunies et présentées dans un modèle précis. Et donc, l'entreprise peut vous dire, voilà le modèle qu'il faut utiliser ou pas.
Voilà, on va prendre le tout dernier auditeur bienvenu qui nous appelle de Kinshasa. Et puis, vous allez nous parler, vous l'avez épinglé, de Rassioa. Vous êtes directeur général du Rassioa, qui est également une agence de placement. Alors, bienvenue, vous nous appelez de Kinshasa. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Marcel, bonjour aux deux invités.
On vous écoute, bienvenue.
Oui, Marcel, j'ai religieusement suivi nos deux invités. Je salue le docteur Yves Daniel qui a presque disparu et le professeur. Le professeur, dans son exposé, je crois, si je l'ai bien suivi, il a essayé un peu de développer un arbre à problème. Il a dit, voilà, les universités ne produisent pas des personnels de haute qualité. Les entreprises sont presque les entreprises étatiques qui ne disposent pas assez de temps pour former des jeunes. Et puis même ceux qui travaillent là souffre des compétences. Mais néanmoins, si bien qu'il a essayé de développer cet arbre à problème, il n'a pas donné un arbre à solution. Là, c'est un problème. Le docteur Yves Daniel, que je regrette d'ailleurs, qui a qualifié les jeunes d'aujourd'hui de médiocres, tous deux sont des enseignants de l'université. Ils disent aujourd'hui notre formation est à l'inadéquation avec les marchés d'emploi. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire à leur niveau? Ils enseignent déjà d'adapter, de faire adapter ne serait-ce que leurs cours pour que les étudiants qui bénéficient de leurs enseignements soient au niveau où les entreprises cherchent. C'est aussi une façon d'aider notre pays plutôt que de prêcher au désert pour ne rien contribuer au développement de ce pays. J'aurais voulu, parce que tous deux sont des professeurs des universités, de faire adapter ne serait-ce que leurs cours pour qu'ils soient un peu à mesure par rapport à d'autres pays. Là aussi, c'est mieux.
Merci, bienvenue d'avoir appelé de Kinshasa. Voilà, Yves Daniel Gavan, on vous a ressuscité, c'est la résurrection aujourd'hui, parce que c'est cet auditeur qui a dit vous avez disparu. Alors, comment réagissez-vous rapidement et puis ça sera votre conclusion.
Merci. Bon, c'est pas une résurrection, je suis toujours là sur d'autres formes,
oui.
Bien que à la radio Capi, effectivement, ça fait un bout de temps. Bienvenue en ce qui me concerne. Je suis à Kinshasa, donc tu as la facilité de me voir et tu peux même venir assister à mes enseignements. Ce que je dis ici, c'est ce que je pense en dehors de mes ouvrages. Je suis quelqu'un très pragmatique et je me bats toujours, et j'ai toujours dit aux collègues enseignants, on doit pas seulement faire des grèves pour réclamer les salaires, mais faisons aussi des grèves pour qu'on améliore le système d'enseignement. Que l'État puisse appliquer des mécanismes appropriés. Parce qu'on n'est pas enseignant seulement pour avoir des voitures et des bons salaires, mais aussi pour que le contenu de nos enseignements soit de qualité. Et ce plaidoyer, je le fais devant n'importe qui. J'ai écrit des ouvrages qui parlent de l'employabilité. J'ai pas traité des jeunes de médiocres. J'ai traité certaines pratiques que les jeunes recourent de médiocres. Parce que nous avons une jeunesse qui a beaucoup de qualités, mais c'est une jeunesse qui est complètement abandonnée. C'est une jeunesse qui est perdue, qui ne sait pas dans quel sens se vouer. Et avec le professeur Pata, on fait l'effort, effectivement, de ne pas être théorique, mais c'est de proposer des solutions, c'est pourquoi on est là. Donc, il faut dire, nous deux, ensemble avec le professeur Pata, on peut rien faire face à la multitude de questions ou de problèmes que le pays pose en termes d'employabilité ou de questions d'emploi, c'est d'abord un problème de politique nationale. Nous, on peut proposer des réflexions, mais il y a des gens qui sont payés par l'État, qui sont censés faire leur boulot. Comment un pays qui n'a pas un référentiel de compétences et des emplois stratifiés jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une politique d'emploi de manière claire? Comment vous pouvez comprendre alors qu'on a des ministres qui ne font que se succéder, mais on n'arrive pas à résoudre cette question? Ça, c'est pas à notre niveau. Vous avez une structure comme l'ONEM. Peu importe ce que vous pouvez dire, mais si qui continue son petit bonhomme de chemin sans assumer sa mission, mais ça, c'est pas notre responsabilité. Donc les responsabilités sont partagées entre les institutions, nous acteurs d'enseignement, et aussi les jeunes qui aujourd'hui se font plus victimes que d'autres acteurs dans la recherche des solutions idoines pour leur cause.
Voilà,
et
merci.
Voilà, donc voilà. Je peux dire ça.
Voilà, merci Yves Daniel Gavan, expert en ressources humaines. Merci en tout cas d'avoir été de nôtre. On espère qu'on va vous retrouver prochainement pour parler par exemple de la rédaction d'un CV au pays et de parler également de beaucoup d'autres sujets que vous avez à traiter à travers vos ouvrages. Merci et bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Bon, David Pata, vous allez réagir et puis nous présenter rapidement à Rassiwa qui sont les services que Rassiwa peut rendre aux entreprises par rapport à tout ce qui est recrutement du personnel.
Ok, donc je reviens d'abord à une question pendante. On a soulevé un problème de technicité.
Oui.
C'est-à-dire que certains recruteurs souffrent d'un problème de compétences techniques. Alors donc, j'ai mis sur place un ouvrage intitulé « Recrutementologie, science des pratiques de recrutement » publié aux éditions du Net en 2021. Cet ouvrage, j'ai dédié en fait aux experts en recrutement, mes compétences et les différents processus, des différents outils d'analyse pointués qu'ils pourraient utiliser pour s'en servir pour faire un recrutement propre. Alors, Rassiwa, c'est une entreprise qui n'est pas de placement, dirais-je. C'est une entreprise, en fait, spécialisée dans le domaine d'organisation du travail et de management des compétences. Parce que nous avons constaté qu'il y a un sérieux problème surtout pour nos entreprises, ils ont du mal à bien s'organiser. Ils ont, n'est-ce pas, certains souffrent même d'un problème de compétences et également même d'un problème de structuration, également, effectivement, même en termes de management, de gestion des carrières. Et donc, c'est ainsi que Ratio présente, n'est-ce pas, par exemple, des outils comme évaluation des emplois et classification des emplois, évaluation et classification des emplois. Et nous avons le problème des bilans des compétences, les développements du personnel. Là, nous avons parlé, par exemple, des jeunes gens doivent être coachés, doivent être formés pour le préparer d'entrer dans les meilleures conditions dans le milieu d'emploi, mais également de maintenir les niveaux, n'est-ce pas, de formation et de compétences des gens qui sont au sein des entreprises. Mais également, il y a autres services, par exemple, la validation des acquis et de l'expérience. Vous allez voir, par exemple, il y a certaines personnes qui ont travaillé pendant longtemps dans des domaines qui n'étaient pas de leur science de prédilection, discipline de prédilection. Mais ces gens, par exemple, il a fait la sociologie, la philosophie, il a travaillé comme comptable depuis des années, il a commencé comme assistant, etc. Et aujourd'hui, il a totalisé un bon nombre d'années, donc il a développé de grandes compétences, alors qu'il n'a pas, n'est-ce pas, les titres, n'est-ce pas, pour ces métiers-là. Et donc, Ratio a le mandat, par exemple, de pouvoir faire l'évaluation des acquis, des expériences et conférer à la personne un certificat professionnel qui comble le vide, n'est-ce pas, en termes des diplômes, des papiers que la personne doit avoir. Donc, voilà. Donc,
il y a un site où les gens peuvent se référer pour avoir...
Bien sûr, c'est www.ratio.com. Ratio avec W.com.
Ratio en minuscule.
En minuscule, ratio.com. Ratio, c'est quoi? C'est Rasilima Liwaku en swahili, qui veut dire en français élargi, l'humain au sein de l'organisation, ou en anglais, human on organization.
Voilà, merci David Pata, expert en recrutement et directeur général de Ratioa. Merci à vous aussi d'avoir
été
des nôtres pour parler du combat sur un bon recrutement du personnel dans une entreprise. Bonne journée à vous.